Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Les jours passent. John est convoqué chez son père à son bureau, consul de Hongrie. Grande pièce meublée empire. Monsieur le consul est un homme grand, sec, cheveux et barbe grise, habillé d'un costume anthracite. Il est assis à son bureau et est assise en face de lui. Son père lui dit:
je t'ai fait venir, c'est pour que... te dire, c'est qu'il fallait que tu te tiennes mieux. Que fais-tu avec cet homme, ce Nicolas Truc? Elle lui dit: Nicolas Kraff, un homme très bien. Le père continue: ce jeune homme qui a très mauvaise réputation, qui aime les garçons, pourvu qu'il n'y ait pas d'histoire de pédophilie. Vous divaguez, père. J'aime Nicolas et il est très bien. Et puis vous pouvez dire n'importe quoi sur lui, je l'aime, et j'aimerai toujours, malgré ses défauts.
Tu es complètement folle, ma fille, et tu perds ton temps avec ce jeune homme.
Attention, ma fille, les années passent vite.
Elle se lève et lui demande: vous n'avez rien d'autre à me dire?
Puisque tu le prends de cette façon, non.
Bien, au revoir, père.
Au revoir.
Elle le quitte.
Arrivée chez elle, elle ne peut s'empêcher de penser à ce que lui a dit son père.
Les années passent vite. Je risque de rester vieille fille. Qu'est-ce que je fais avec ce PD? qu'il ne m'est même pas fidèle. Je vais moins le voir et penser un peu plus à moi. Lorsqu'elle, Nicolas l'invite au restaurant, elle accepte. Et au cours du repas, elle lui dit
oui,
je crois qu'il serait mieux si qu'on se voyait pour moi. Et pour moi, c'est bon. J'ai réfléchi et je me dis que nos relations, c'est bien, mais à part l'amitié, ça ne sert à rien. J'ai besoin d'être traité comme une femme, et toi, malheureusement, il lui dit je comprends. Elle lui dit le temps passe tellement vite. Tu n'étais pas comme ça, nous aurions pu vivre ensemble. Mais là, j'ai besoin, c'est de vivre avec un homme qui m'aime vraiment. Parce que je suis une femme, tu comprends? Voilà, lui dit, je comprends. Elle lui dit, mais nous continuerons à nous voir malgré tout. Non? Elle lui dit, j'y compte bien. Elle lui sourit et lui dit, je souhaite c'est que tu sois heureux. Elle lui caresse sa joue. Elle lui répond, moi aussi, je souhaite c'est que tu sois heureux.
Pensez-vous, papa, ils sont 76. Tu n'es pas formidable, 76 de qui?
Après le repas, il l'a raccompagné. Avant de se quitter, ils se sont embrassés. Elle lui dit, fais-moi de tes nouvelles de temps en temps. Toi aussi. Elle est entrée dans son allée. Lui rentre à pied chez lui, le corps un peu triste, en se disant que le bonheur des gens normaux lui est interdit. Peut-être à cause de ses goûts, il ne sera jamais heureux. Les portes se ferment devant lui, sa famille, Julien, Jean, etc. etc. À cause de ce qu'il est, il va se retrouver seul dans le noir. Il sera en dehors de la cité comme une bête sauvage ou malade. Les jours passent. Soirée organisée par son père, John va arriver un jeune dans les 35 ans, grand, mince, ses cheveux épais, déjà gris, mais le visage jeune et sympathique. L'homme lui dit, bonjour, je m'appelle Albert Duvert. Moi je suis John, la fille du consul. Il lui demande, Vous voulez danser ?
Oui, je veux bien. Et il l'amène. Tout en dansant, elle sent son corps contre le sien, son odeur. Elle le trouve beau et musclé. Elle lui demande, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis dans les conserves alimentaires.
Et vous ?
Moi, disons que je suis comédienne. J'ai joué quelques films.
Oh, il me semble vous reconnaître.
Des rôles où vous jouiez avec des jeunes gens.
Oui, mais c'était du cinéma.
Mais les jeunes adolescents ?
Oui, je comprends.
Vous êtes marié ?
Non, je suis seul.
Comment se fait-il qu'une si belle jeune femme vive seule ?
C'est comme ça,
la solitude.
Ça ne vous pèse pas trop ?
Si je vous disais non, vous ne croirez pas.
Je vous comprends. Moi aussi, je vis seul.
C'est la nuit que c'est le plus dur.
Après bien fait, l'amène au buffet pour boire une coupe de champagne. Elle le trouve extrêmement séduisant et se dit qu'elle aussi doit lui faire de l'effet. Alors, puisque chacun se fait de l'effet et que l'on est libre tous les deux, pourquoi pas? Mais le plus difficile, c'est de faire un pas dans l'intimité. Pour une fois, elle remercie Dieu d'être une femme, parce que c'est à lui de faire le premier pas. Elle lui sourit gênée. C'est à lui à faire la suite du programme. Il lui dit,
j'habite Versailles, gentille maison du 18e.
Elle a été construite en même temps que le petit Trianon. Les révolutionnaires voulaient la démolir, car elle ressemblait beaucoup au Trianon. Mais un conseiller républicain l'a sauvée pour en faire sa maison. Car avant, il avait fait décapiter ses propriétaires, qui étaient de la noblesse. L'architecture y est très belle. Les boiseries et les moulures sont d'époque. Même le plancher est un petit bijou. Je suis ruiné pour l'avoir.
Elle lui dit, elle doit être très belle à visiter.
Cela vous intéresse ?
Oui, pourquoi pas ?
Si vous voulez, vous pourriez en le faire ce soir ? Je le ferai visiter à la lumière des chandelles.
Serait très romantique, j'accepte.
Alors, allons-y.
Déjà ?
Oui.
Vous voulez encore danser ?
Non ?
Eh bien, allons-y.
Il l'amène à une des CS noires. Il ouvre la portière. Elle entre. Lui entre aussi.
Et la voiture est partie. La villa se trouve un peu en retrait, pas bien loin de Versailles. Au fond d'un petit parc à la française.
Il a garé la voiture devant l'entrée du parc et l'amène.
Il a fait entrer.
Et lui fait visiter. C'est vrai que c'est un petit bijou. Très beau. Les boiseries peintes, les moulures, les tableaux, tout est merveilleux, parfait, comme il le lui a dit. Il visite ça avec la lumière des bougies. Il tient à la main un bougeoir. Après qu'elle est visitée, il l'amène au salon et la fait asseoir.
Vous voulez boire ? Elle lui dit. Je ne savais pas que c'était aussi beau. Je crois que le champagne ira très bien.
Et il sert.
Elle lui dit, c'est vraiment magnifique.
Oui, mais il lui manque une chose.
Laquelle ?
Une femme pour lui donner vie.
Il faut vous marier.
Oh, si je pouvais.
Pourquoi ne le pouvez-vous pas?
J'arrive pas à trouver une femme qui veuille de moi. Mes cheveux blancs leur fait croire que je ne suis plus apte à faire mon devoir d'époux.
Prouvez-le leur.
Je suis prêt. Et vous?
Moi?
Oui. Seriez-vous prête à me laisser vous prouver que je suis un homme?
C'est un peu...
C'est l'or entre chien et loup. Personne ne peut nous déranger et personne ne peut nous le reprocher. Alors,
ma foi, après avoir essayé votre ramage, essayons votre plumage,
si l'on peut dire, si je peux m'exprimer ainsi.
Il lui tend la main.
Venez,
elle se lève.
Et il la quitte dans sa chambre.
Une chambre avec un immense lit. Elle est meublée Louis XV. N'éclaire pas. Et seulement avec la lumière des rayons de la lune, il la déshabille.
L'amour, elle s'est endormie dans le grand lit à côté de lui.
Petit matin, son sommeil est profond, noir, sans rêve.
Puis, elle se réveille, se souvient et voit que la pièce est dans le noir. Dehors, il fait nuit.
Elle se dit, je me suis couchée au petit matin, et maintenant il fait nuit.
J'ai dû dormir toute la journée.
Elle regarde, et voit qu'elle est seule dans le lit.
Elle entend dans le noir des bruits légers.
C'est vous, Albert ?
Pas de réponse.
Elle se lève.
trouve ses vêtements à terre, les met. Il sort de la chambre. Là, dans le couloir, elle voit une porte ouverte. La pièce éclairée. Va voir. Elle voit à terre Albert en pyjama. Un coup de couteau dans le dos. Elle se penche, elle touche légèrement, il est mort. Elle panique, court pour sortir de la maison. Tout à coup, en passant dans le couloir, on l'attrape par derrière. Il met la main dans la bouche. Elle n'a pas le temps de se défendre qu'elle reçoit un coup de couteau dans le dos. Tombe à terre, inanimée. La silhouette masculine qui l'a tuée sort de la villa et du jardin tranquillement. Voiture avec un chauffeur l'attend. La portière arrière de la voiture s'est ouverte. Il entre. Et s'assoit à côté de la femme en noir. La voiture est partie. Matin, comme tous les matins, la femme de ménage vient. Elle trouve le corps, appelle la police et trouve l'identité des victimes. Cela fait grand bruit à cause de Jean. Le père vient effondré reconnaître le corps. Les journaux, dont France Dimanche, disent qu'elle était la maîtresse de Nicolas. Détective pose la question : que faisait-elle chez cet homme ? Le père essaye d'étouffer l'affaire. Il le demande au ministre de la Justice.
Que ma fille soit morte chez un inconnu, cela va faire dire qu'elle était une femme légère, qu'elle allait avec n'importe qui. Il faut étouffer l'affaire, il faut étouffer tout ça. Le ministre lui dit,
il est trop tard maintenant que les journaux s'occupent de l'affaire. On ne peut rien faire.
Le père est effondré. Le commissaire Dupont, un petit homme sec, chauve, pense que c'est Nicolas le coupable et que s'il l'avait tué, c'est par jalousie. Il l'a convoqué au quai des Orfèvres pour l'interroger. Nicolas se trouve assis dans une petite pièce minable avec des murs jaunes sales, des barreaux aux fenêtres. Ça sent la poussière, le graillon et la cigarette. Le commissaire a comme bureau simple table. Un peu plus loin, il y a un homme grand et fort avec sur une table une vieille machine à écrire.
Le commissaire demande :
où étiez-vous le soir du drame ?
J'étais avec un ami, Guillaume. Nous étions chez moi.
Nous avons vérifié.
Vous êtes vraiment sûr d'avoir passé la soirée chez vous et de n'être pas allé à la villa?
Oui, tout à fait sûr.
Le commissaire sort de son tiroir une paire de gants en cuir marron de haut prix avec les initiales NS.
Ce sont vos gants.
Oui.
Nous avons trouvé dans la villa.
Mais, il n'y a pas de mais. C'est vous qui avez fait le coup.
J'ai mis la petite John. Elle vous trompait avec Albert et vous l'avez tué.
C'est ridicule. C'est ridicule, mais c'est comme ça.
Le commissaire se lève et lui dit, vous allez venir avec moi. Vous êtes en état d'arrestation.
Mais, vous êtes écroué.
Nous allons voir monsieur le substitut pour signer les papiers et après la maison d'arrêt.
Je suis innocent.
Ne me prenez pas pour un imbécile, monsieur Scraff. Je sais que des quais des orfèvres repassent dans les cinémas. Mais ce n'est pas une raison pour que toutes les personnes écrouées soient des innocents. Suivez-moi.
Nicolas, la mort d'un homme le suit.
Et deux jours plus tard, le commissaire, dans son bureau...
Allô, commissaire Dupont? Je vous téléphone au sujet de l'affaire de Jean Dupré.
Je vous écoute, monsieur. Je suis l'assassin. La preuve, j'ai tué avec un couteau épinel. Sur l'alarme, il y a un numéro. 63 750. Si vous voulez tout savoir, je savais qu'Albert était invité à la soirée. Pendant son absence, je me suis introduit chez lui. Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Je suis allé à la soirée. J'ai vu qu'il draguait Jeanne et vu qu'il l'amenait chez lui. Je les ai devancés. Je suis introduit, encore une fois, dans la villa et je suis mis dans le champagne un somnifère. J'avais mis une dose pour deux personnes. J'avais une chance sur deux pour qu'ils en boivent. Puis, je me suis caché. J'avais besoin de leur sommeil pour chercher un certain dossier. De son sommeil à elle pour qu'elle ne nous gêne pas. Et de son sommeil à lui pour qu'il nous donne les indications. Les somnambules. Une fois tous les deux endormis, je l'ai sorti du lit. Et mené dans toutes les pièces pour qu'il m'indique où était le dossier. Malheureusement, il s'est réveillé. Il a pris peur. Nous sommes battus et j'ai tué. Elle s'est réveillée. J'ai oublié de l'activer parce qu'elle allait alerter la police et j'ai cru qu'elle m'avait reconnu. Nicolas est innocent. Je vous le répète. Et s'il meurt, c'est la faute d'une erreur de date.
Comment cela? Vous en savez assez.
L'erreur ne regarde que moi.
Donnez-moi votre nom.
Libérez Nicolas Scraff.
Bien, je vais voir. Vous m'entendez?
Plus rien.
On n'a jamais su d'où provenait l'appel téléphonique ni qui c'était. Mais que l'arme du crime était bien l'opinel et que personne ne le savait à part la police et l'assassin, car on ne l'a même pas montré à des témoins. Le parquet décide de libérer Nicolas. Le substitut et son avocat lui expliquent pourquoi. Il n'y comprend rien.
Son père est effondré par cette histoire. Il va le voir à Paris. Il le reçoit chez lui, dans son salon.
Après avoir bu, Benoît lui dit
« Tu ferais mieux s'il menait une autre vie, de rentrer à Lyon, pour vivre comme il faut. »
Nicolas lui dit « Non, père, c'est ma vie.
et je veux vivre comme ça.
Jusqu'au prochain scandale,
il n'y en aura plus.
Un après-midi, l'on sonne chez Nicolas.
Il va ouvrir. C'est le père de Jean.
Bonjour, monsieur. Entrez, je vous en prie.
Le père entre.
Et lui dit, je suis venu vous dire ce que je crois votre culpabilité. Des pédés de votre espèce ne devraient pas vivre. Vous êtes tous des sadiques.
Mais monsieur,
au revoir, monsieur.
Le soir, lorsqu'il est avec Guillaume, il lui dit, j'ai reçu la visite du père de Jeanne. Il croit que j'ai tué parce que je suis pédé. Des visites comme celle-là, je crains que nous en ayons beaucoup d'autres.
J'ai réfléchi. J'aimerais c'est partir avec toi, dans un coin tranquille.
Là, nous ne pourrions pas nous reposer de tout ça, et réfléchir.
Qu'en penses-tu?
Oui, tu as raison, mais aller où?
Nous pourrions aller en Bretagne, dans un coin tranquille. T'en connais un?
Oui.
Ils sont partis une semaine plus tard sans prévenir personne. Nicolas a trouvé un petit village de pêcheurs au bord de la mer. Là, ils ont loué une petite maison d'un étage au bord de la mer, toute simple la maison, avec des volets de bois rouge. Elle est meublée de meubles anciens, bretons. Ça sent la mer, la cire. Il y a au rez-de-chaussée un petit couloir qui mène aux escaliers de bois, une cuisine, un cellier de séjour au premier deux chambres. Nicolas et Guillaume coucheront dans la même chambre. Une fois qu'ils ont rangé leurs affaires, mangé et changé, ils sont partis se promener sur la plage.
Nicolas dit à Guillaume,
j'ai mes jambes, elles me manquent beaucoup. Je me demande quel est ce salaud qui l'a tué. Tu sais, j'ai du remords parce que je ne lui ai pas assez montré mon attachement pour elle.
je veux te dire, c'est que je t'aime. Il veut te le prouver. Tu as peut-être dû avoir l'impression que je me servais de toi comme d'un jouet. Je ne crois pas cela. Je t'aime. Je t'aime.
Guillaume lui dit, moi aussi je t'aime.
Durant leur séjour, Nicolas prouve son amour à Guillaume et le lui dit. Ils font de longues promenades sur la plage. Il fait froid, le ciel est gris. Les mouettes volent sur le ciel nuageux et passent sur les galets et sirènes. Guillaume lui dit. Moi aussi je t'aime beaucoup. Durant mes voyages, je pensais constamment à toi. Nicolas pense aussi à Y, mais c'est pas la même chose. Il ne trompe pas Guillaume parce qu'Y est un ange. On aime un ange, mais on ne le désire pas. Comme un être humain, n'est pas de la même substance. C'est un demi-dieu qui n'est que de passage sur cette terre, qu'il faut voir et aimer comme une lumière. Oui, comme une lumière.
Ils sont revenus à Paris, on ne parle plus de cette histoire. Le dossier a été classé par manque de nouvelles preuves.
Nicolas dit à Guillaume. Je dois me remettre au travail. Trouver un nouveau sujet de film, Guillaume lui dit. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? À quoi cela sert-il? Nicolas lui répond. Ça me donne du travail et c'est mon gagne-pain. Et puis, j'en ai besoin. Ça me manque. Mais c'est bizarre. C'est qu'à chaque début de tournage, j'en ai plus envie. Je veux tout lâcher. J'ai peur des comédiens, des techniciens. J'ai peur qu'on me juge de ne pas être à la hauteur de ne pouvoir finir le film. Puis, au bout de quelque temps, cela va mieux. Et je suis heureux de tourner. Mais, l'hantise de pouvoir finir le film à cause d'un acteur ou autre m'empêche d'être tout à fait heureux. Et lorsque j'ai fini, une grande dépression me prend. Je suis d'une grande tristesse. Je n'ai envie de rien. Je ne veux même pas faire le montage. Le montage, on voit toutes les bobines du tournage. L'image est bonne, le son, non. Les acteurs, oui, l'image, non, etc., etc. Une fois qu'on en a fini, on n'a plus envie de voir ce que l'on a fait. Le film est fini, on n'y pense plus. C'est du passé. Et puis, on a trop de regrets. C'est normal, trop de choses n'ont pas été faites comme on l'aurait voulu. Guillaume lui demande, « Pourquoi recommencer ?» Colas lui répond, « Parce que l'on croit qu'on peut mieux faire la prochaine fois. » que là, chaque matin, est au salon, la table devant la fenêtre, essaie d'écrire une histoire qui deviendra un scénario. L'histoire qu'il essaie d'écrire, c'est l'histoire d'un enfant d'une famille très pauvre à la fin du 19e. À l'âge de 4 ans, on lui donne des cours de danse. Comme il est fragile, le docteur avait conseillé à la mère de lui faire faire la gymnastique, mais comme il n'y avait pas de place, on lui dit qu'il devrait apprendre la danse. Cela plaît à la mère et à l'enfant. Les cours sont payés par une dame charitable de la petite ville. Le temps passe. À 9 ans, l'enfant fait ses premiers pas sur scène. Cela lui paraît merveilleux. Il est bon danseur. On le fait danser en solo. Les autres élèves s'issus ici de familles aisées. L'enfant, très tôt, s'en aperçoit. Il aimerait avoir ce que les autres ont. Vêtements, bonbons, jouets. Et il aimerait, c'est qu'on vienne le chercher, qu'un domestique vienne le chercher en calèche. Les autres enfants le regardent de haut, et certains l'invitent chez eux. Une jeune fille qu'il aime bien l'invite chez elle. Elle habite une villa magnifique et tout. L'enfant en perd la tête. Lorsqu'il revient chez lui, il voit la différence, mais il aime tout de même de tout son corps sa mère, qui est seule et fait tout à ce qu'elle veut. Peu pour qu'il puisse vivre comme il faut. Pour cela, elle fait des ménages en plus de son travail à l'usine. Cela fait mal à l'enfant de voir sa mère trimée au travail. À 14 ans, il est obsédé par leur misère et veut tout faire pour sortir sa mère de ce monde. Un jour, à une réception, un homme se trouve là. C'est un chef de troupe. Il a de riches propriétés. Il remarque les jeunes hommes, ou plutôt les jeunes adolescents. L'adolescent comprend tout de suite l'attirance qu'a l'homme pour lui, comme il est prêt à tout pour sortir de sa misère. L'homme le convoque et lui promet une belle carrière à travers l'Europe. L'enfant se laisse séduire. Il se laisse caresser, embrasser. L'homme va voir la mère. Elle lui demande si elle accepterait de lui laisser l'enfant. Elle n'aura plus à travailler. Elle accepte. Le jeune adolescent va tous les jours chez le monsieur pour danser. L'homme est précieux, féminin. Lui donne des caresses, des baisers. Cela dégoûte le jeune adolescent, mais ne peut rien faire parce qu'il a peur d'être renvoyé. L'homme est très dur, exigeant pour le jeune homme sur sa danse. Le jeune devient un bon danseur. L'homme crée une troupe pour le jeune et le danseur devient un danseur étoile. Ils partent en tournée. L'homme essaye de séduire le jeune adolescent. Il veut le mettre dans son lit. Le jeune ne veut pas, ça le dégoûte. L'homme s'obstine et veut qu'il vive avec lui. Le jeune résiste. Un jour, le jeune homme tombe malade. Il est dans une chambre d'hôtel, à froid, à la fièvre. L'homme vient le voir constamment. L'ennuie tellement
le supplie de venir chez lui. Le jeune garçon est dégoûté par cette invite, mais il est trop faible pour lutter et pour la misère, la peur de la misère pour sa mère, pour lui, il cède. L'homme le prend et l'emmène chez lui. Et en fait son amant, en profite de sa faiblesse à cause de la faible, de la fièvre. Jeune et dégoûté, il aimerait le tuer. Pour lui, l'homme, c'est le diable. Mais il pense à sa mère et tient le coup. Le temps passe. Le jeune devient une grande vedette à Paris. Il est toujours dirigé par l'homme qui est jaloux et ne veut qu'il parle à personne. Un poète, écrit un sujet de ballet parce qu'il a vu le jeune homme sur scène. L'homme accepte de monter le ballet, mais ne veut pas que le poète fréquente le jeune homme. Le jeune homme a de plus en plus de succès et prend de plus en plus de l'assurance. Il veut son indépendance. Il veut se marier, vivre comme tout le monde. L'homme ne veut pas, c'est sa chose à lui. Le jeune homme a toujours été dégoûté par ce que l'homme lui a fait faire. Cela le dégoûte que l'homme le touche, que l'homme vienne dans sa chambre. Il trouve que les rapports qu'il a avec l'homme sont immoral, qui le force à vivre comme un criminel. C'est le diable. Il aimerait prendre son indépendance, mais l'autre ne veut pas. Et comme le jeune homme a peur de ne pouvoir aider sa mère, parce que l'autre le jetterait à la rue, il reste. Mais il grandit, devient adulte, est devenu une très grande étoile. Sa mère meurt, cela le libère, il se croit libre. On lui propose de danser à l'étranger en Amérique du Sud. Il accepte, il signe le contrat en cachette de l'homme, qui est furieux, mais ne peut rien faire que de le voir partir. Il part en paquebot. Durant le voyage, il fait la connaissance d'une femme riche, qui lui fait la cour et qui est libre. Il croit aimer la femme, décide de se marier. Se marie pendant la traversée. Elle est heureuse parce qu'elle se dit mariée avec une étoile. Elle est plus vieille que lui, lui fait physiquement plus gamin qu'elle. Ils font une tournée en Amérique du Sud. Il a un succès mitigé. Il est moins performant parce que jeune marié. Il est moins dans son art. L'homme a appris le mariage, il est furieux. Comme il a des relations, et il écrit à tous que le danseur est fini et qu'il serait préférable de ne pas l'engager. Comme l'homme a une réputation et un nom, on suit son conseil. Les jeunes mariés reviennent à Paris. Presque sans un sou. L'homme les reçoit furieux. Leur dit que sa carrière est finie. Tu étais un fan, un demi-dieu. Maintenant, tu n'es qu'un simple mortel. Tu es fini. Fini. Je ne lui réponds. Avec vous, mais je peux trouver du travail avec d'autres. L'homme lui dit. Non, c'est fini. Le jeune homme, une fois installé à Paris, cherche du travail. Mais il y a des difficultés car tout le monde lui tourne le dos. Il a enfin un engagement au théâtre des Champs-Élysées. Malheureusement, son départ de Paris, les bruits qu'ont fait courir ses anciens amis et l'homme, et puis une autre étoile est apparue qui va à la chasse vers sa place, le spectacle du théâtre des Champs-Élysées n'a pas beaucoup de succès. La vie devient de plus en plus dure. Les portes qui hier lui étaient grandes ouvertes lui sont fermées. Il a des difficultés à joindre les deux bouts. Sa femme est déçue. Elle croyait vivre avec une étoile, une star, et elle s'aperçoit qu'elle s'est mariée avec une pauvre traîne savate qui va quémander des contrats minables. Il la fait vivre d'une façon modeste. Et plus le temps passe, plus il prend de l'âge, et pour un danseur, c'est mortel. Sa femme lui dit de retourner chez l'homme. Il lui refuse. Il dit que c'est le diable. La femme va tout de même voir l'ancien protecteur. Il la reçoit dans son hôtel. Radio Canyon vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, film intérieur dont c'était la 34e partie. Production mise en scène Julien Jean-Pierre, enregistrement CVP.